France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Quand nous avons reçu le courrier de Rémi pour dénoncer l'une des deux initiatives du jour, nous n'avons pas hésité un instant à vous en faire part. Elle s'appelle Ecomail. À ma connaissance, c'est la première boîte mail écologique et éthique. On va détailler tout à l'heure cet Ecomail. Tout est parti de l'intention d'un couple, d'ailleurs, de décider à passer à l'action. Même chose pour la famille Sorouet, qui a créé un jeu de piste et un escape game en extérieur sous le nom de 13 Orléans, la chasse aux 13 Orléans. Ça se passe à Orléans. Oui, ils ont osé.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Édouard Sorouet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Avec Marjorie, vous avez décidé de lancer une découverte à travers une chasse au trésor, une découverte de la ville d'Orléans et de son patrimoine, parce que vous êtes passionné de jeux et de patrimoine local, qui s'appelle la chasse au trésor Orléans. Bravo. Un magnifique jeu de mots, sauf que vous êtes un peu culotté, parce que normalement dans une ville historique comme Orléans, il y a des offices de tourisme, il y a des guides officiels. Pourquoi s'immerger dans cette approche ludique de l'histoire ?
Alors parce que simplement ça nous paraît un bon moyen d'amener les gens à s'intéresser à l'histoire, au patrimoine, c'est un bon prétexte hein, d'aller chercher, en fait de s'appuyer sur le patrimoine comme un élément de jeu comme un autre, et en fait on a fait le pari complètement fou de dire aux gens vous allez vous amuser et en plus vous allez apprendre des choses.
Il y a un souci depuis quelques mois, Edouard, c'est qu'on vit tout à distance, on vit par procuration, on vit derrière un écran. Je suis pas le seul à dire ça, mais j'en ai marre. Moi, j'ai envie de découvrir du vécu, du vrai, de serrer une main, de toucher des pierres. Est-ce que c'est possible avec vous ?
Oui, bah alors tout à fait, c'est possible. Nous, on s'est adapté avec les conditions sanitaires actuelles en faisant des sous-groupes, ce qu'on faisait déjà de base en fait, hein, pour éviter des gros rassemblements. Et l'idée, c'est ça. C'est 100% en extérieur. C'est pas une course hein, ce qu'on propose. Hein. C'est vraiment une activité à faire en groupe, en prenant le temps, en regardant autour de soi et effectivement, bah voilà, en regardant la nature, en regardant le patrimoine, en levant les yeux, en manipulant des choses, quoi.
Vous n'avez pas peur de toucher une histoire qui a été un objet de récupération politique jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, non, je dirais le meilleur moyen de dépolitiser quelque chose, c'est de le prendre et de l'utiliser. Parce que c'est vrai que, forcément, notamment on pense à Jeanne d'Arc, hein, quand on parle d'Orléans, c'est une icône qui est extrêmement politisée dans les milieux. Et nous, bah, justement, on cherche à sortir ça de ce côté politique en disant, voilà, c'est de l'histoire. Par exemple, pour Jeanne d'Arc, il y a une jeune fille qui a sauvé Orléans. C'est un fait. Après, qu'on soit pour, contre, religieux ou pas religieux, c'est autre chose. Et c'est pour ça que nous, on s'est amusé aussi à créer un nouveau parcours, donc un escape game d'extérieur sur Saint-Aignan. Et la première, on l'a fait en pleine commémoration des fêtes de Jeanne d'Arc, des fêtes joanniques. C'était notre petit clin d'œil pour dire qu'il y a aussi d'autres choses à voir. Même si, évidemment, l'histoire de Jeanne d'Arc, elle est très prégnante sur la ville.
Alors, Saint-Aignan, évêque d'Orléans, sauva la ville du pouvoir et de l'attaque des Huns et d'Attila ?
Exactement, Attila, il est arrivé en France jusqu'à à l'époque donc Aurelianis, hein, l'ancien Orléans, et il allait marcher sur la ville. Alors très probablement c'est le général romain donc qui s'appelait Aetius, hein, c'est en 451, hein, ça commence à dater, qui a sauvé la ville, mais il y a une légende du coup qui place Saint-Aignan comme étant le sauveur qui aurait sauvé Orléans, et donc du coup tout le monde l'a oublié, le pauvre, parce que forcément Jeanne d'Arc elle est passée à peu près 1000 ans après pour sauver la ville des Anglais, et le petit Saint-Aignan, bah, tout le monde l'a oublié.
Ouais. Donc c'est bien de raviver cette mémoire. Comment se présente cette chasse au trésor Léon ?
Alors, on a deux formats. On a un format sous forme de jeu de piste qui est un peu plus long, sur 2h30-3h, où on invite les gens sur un circuit à suivre une lettre qui leur propose de redécouvrir Orléans un peu comme avant, par le biais de cartes postales anciennes, par le biais d'anecdotes, de petites anecdotes historiques, et par le biais d'énigmes qui vont obliger les gens à regarder autour d'eux. Et d'autre part, on propose un escape game d'extérieur sous un format comme un escape game, mais sauf que vous n'êtes pas enfermé, parce que là, je pense pas que ce soit le moment de s'enfermer, qui plus est, où les gens, ils ont un sac à dos, ils ont des cadenas à ouvrir, ils ont des petits éléments d'énigmes, ils vont d'un point à un autre, et en plus, c'est un format dont ils sont le héros, donc en fait, ils choisissent en plus leur trajet. Donc, ils savent à peu près où est-ce qu'ils vont, et ils sont autonomes. Voilà. Et donc, on s'amuse, on rajoute un petit peu d'animation dans tout ça, et puis... ça fait le bonheur des petits et des grands, généralement.
Il y a suffisamment d'histoires à Orléans pour que vous ayez encore d'autres scénarios en réserve ?
C'est une très bonne question. En vrai, même sur nos parcours actuels, on ne peut qu'effleurer l'histoire. Hein. On n'essaie pas de la survoler, mais on l'effleure. C'est-à-dire qu'on va aborder certains thèmes, certaines choses, mais il y a beaucoup de choses, même si l'histoire d'Orléans, on a envie toujours, tout le monde a envie de la faire graviter autour de Jeanne d'Arc. Effectivement, c'est une ville qui parle de par la Loire, déjà elle a une histoire très développée. Les vinaigreries, par exemple, hein, dont on parle dans un de nos parcours, une vieille vinaigrerie qui est au centre d'Orléans, c'est des beaux objets, c'est des choses qui n'existent que par le biais de l'histoire, qui sont finalement un peu un vestige d'un ancien temps. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc, du coup, effectivement. Mmh. Donc non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et après, c'est aussi notre imagination et puis notre inspiration. Donc non, on s'inquiète pas. Le but étant quand même qu'il y a de quoi faire entre tout ce qu'on propose. Donc ça devrait aller.
La chasse au trésorléans.fr. Merci Edouard.
Merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Je remarque que souvent les initiatives qu'on vous présente sont nées à partir d'expériences vécues. C'est le cas de Sophie, qui a créé son agence, après un mariage, a créé son agence Les Histoires Naturelles. Il s'agit d'organiser un événement à un moindre impact écologique, dit-elle, et dans le respect du travail artisanal et des artisans. Je découvre au passage le nom de son métier de wedding planner, et qui consiste à réunir des partenaires engagés en matière d'écologie responsable, des traiteurs, des fleuristes, des créateurs, des photographes, des vidéastes, pour ne citer que. Ça se traduit par l'utilisation de produits locaux issus de l'agriculture biologique, d'un programme zéro déchet, de matériaux recyclés, de réduction des transports et de bien-être animal. Sophie devance ses critiques en affirmant que son travail implique une démarche globale et personnalisée afin de sortir du gadget écolo ou du verdissement de surface qui consisterait à glisser quelques touches d'écologie dans les faire-part en papier recyclé ou dans les pailles en bambou. Le siège de son agence est à Bordeaux, mais elle intervient partout où existe la demande. Le site de son agence, donc bien original, est leshistoiresnaturelles.com. Après, donc on est dans les histoires de famille aujourd'hui, après la famille Sorouet, voici la famille Herbert avec Nathan Herbert. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est une histoire, l'histoire de votre famille, de votre couple, vous et votre épouse. Il y a quelques années, vous avez réfléchi à, comme beaucoup aujourd'hui, aux dégâts créés par les multi-usages du numérique, les data centers, les réseaux de connexion de plus en plus importants qui consomment évidemment énormément et qui laissent une énorme empreinte carbone. Et du coup, vous avez pensé à créer une boîte mail écologique.
Oui. Tout à fait. Alors, avec ma femme, on a réfléchi à cette problématique, notamment après avoir regardé un reportage sur la pollution numérique. Donc, effectivement, la pollution générée par nos outils numériques, que ce soit nos ordinateurs ou nos boîtes email. Et parce que les boîtes email utilisent des services qui sont hébergés dans des data centers, qui eux utilisent de l'énergie, etc. et des matériaux aussi pour pouvoir construire les disques durs et les ordinateurs. Donc, en réfléchissant à cette problématique, on s'est demandé que faire pour essayer de minimiser, diminuer en tout cas l'impact de nos boîtes mail sur l'environnement. Et donc c'est ainsi qu'on a créé EcoMail, une boîte email qui cherche à mettre l'informatique au service de l'écologie.
Alors, en quoi est-ce écologique ? C'est écologique parce que le serveur est alimenté à 100% en énergie renouvelable ?
Alors oui, effectivement, ça c'est un premier point. Le premier point, c'est donc qu'on alimente via notre fournisseur qui est Scaleway les serveurs en hydraulique, donc en énergie renouvelable. Le second point, c'est que nous reversons 50% de notre chiffre d'affaires, donc l'ensemble de nos recettes, on reverse la moitié à des associations qui, elles, sont sur le terrain, qui agissent pour la protection de l'environnement, de la biodiversité. Et le dernier point, c'est qu'on cherche effectivement à sensibiliser nos utilisateurs à la problématique de la pollution numérique, à leur dire ce qu'est la pollution numérique et comment faire en sorte que leur boîte mail pollue moins qu'une boîte mail habituelle.
Ouais. Comme vous cherchez à être absolument transparent, et merci au passage, vous écrivez « Nous sommes convaincus qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir une présence ou une activité sur Internet de façon écologique. De nombreux hébergeurs vous vantent leur mérite écologique, mais ne soyons pas naïfs, sauf exception, aucun hébergeur n'est écologique. »
Et oui, effectivement, en fait, la plus grosse source de pollution, c'est la production du matériel nécessaire au fonctionnement d'Internet, du numérique, donc les ordinateurs, les serveurs. Tous les jours, les hébergeurs rajoutent de nouvelles machines, et heureusement, parce que sinon, nous n'aurions pas tous les services qu'ils nous proposent aujourd'hui. Néanmoins, effectivement, dire que la boîte mail sera 100% écologique, ça serait assez faux, puisque derrière, on utilise nous aussi des logiciels, du matériel qui est produit, on utilise de l'énergie, bien qu'hydraulique, elle a quand même un impact, et on utilise aussi pour proposer le service des ordinateurs, des téléphones pour pouvoir gérer le service. Donc tout ça, ça a un impact sur l'environnement au niveau de la production, au niveau de l'utilisation.
L'abonnement est de 1 euro par mois.
Effectivement, oui. On propose un abonnement pour les particuliers à du coup 12 euros toutes taxes comprises par an. Et donc sur ces 12 euros, si on prend le hors-taxe, donc 10 euros, la moitié, 5 euros hors-taxe, est reversée sous forme de dons à des associations qui agissent pour l'environnement.
Vous spécifiez bien, Nathan, les particuliers. Vous pensez aussi toucher les entreprises ?
Effectivement, en fait, on propose pour les entreprises, il y en a plusieurs qui nous font déjà confiance, notamment deux communes et plusieurs biocoop. On propose des boîtes mail professionnelles avec un petit peu plus d'espace disque, pas énormément plus non plus, puisque le principe c'est de ne pas conserver des centaines de mails inutiles. On propose aussi un espace de stockage sur le cloud, un peu plus conséquent que pour les particuliers, et surtout on propose aux entreprises d'utiliser leur propre nom de domaine lors de l'utilisation des Ecomail. Donc pour les particuliers, on peut créer une boîte en ecomail.fr. Les professionnels peuvent utiliser leur propre domaine.
Ouais. Ça ressemble à quoi Ecomail ? Il y a une image, il y a un logo ?
Ecomail, en fait, c'est une communauté, je dirais. C'est 4600 utilisateurs. C'est une envie vraiment de tous les utilisateurs, que je remercie au passage, d'agir pour l'environnement via la boîte mail.
Ouais. Alors moi, je suis un petit peu paumé techniquement. Si je veux changer, passer par sur Ecomail, ma messagerie doit être transférée, vous pouvez m'y aider ?
On propose des différents guides pour différents fournisseurs, Google, Yahoo, etc. et plein d'autres, pour expliquer comment faire pour migrer le contenu de votre ancienne boîte mail vers la nouvelle. Et si les guides ne suffisent pas, les utilisateurs peuvent nous contacter tous les jours via le support technique. On répond le plus rapidement possible et on essaye d'être le plus précis possible pour aider à cette migration.
Oui, avec les développements probables d'Ecomail, vous allez sortir du noyau familial.
On verra. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ecomail est encore une jeune pousse avec beaucoup d'utilisateurs, 4600, mais ça reste modeste. Et pour l'instant, ma femme et moi, c'est suffisant pour le fonctionnement d'Ecomail.
Bon, on va revérifier le compteur dans quelques jours. L'adresse, c'est ecomail.fr. Merci Nathan.
Merci beaucoup.
Il est midi 45 passé.